Vous êtes bien à l'écoute de RFI, la radio du monde. Il est minuit ici à Paris, 23h en temps universel et c'est l'heure de votre journal.
Jérôme Bastion.
À la une de cette édition, au Proche-Orient tout d'abord, alors que les négociations entre Israël et le Hamas sont dans l'impasse et que tout espoir de cesser le feu paraît hors de portée, le Qatar jette l'éponge et suspend sa médiation dans ce conflit. Incertitude, en revanche, concernant le bureau du Hamas à Doha. Avec l'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'administration démocrate cherche à ne pas perdre la main sur le dossier ukrainien. Des employés de sociétés militaires américaines privées seront donc envoyé dans le pays pour dépenser l'enveloppe budgétaire accordée à Kiev. Et puis en Belgique, les victimes et parties civiles au procès des attentats djihadistes qui avaient secoué Bruxelles en mars 2016 risquent fort de ne jamais se voir dédommagés, bien que la justice ait rendu son verdict le mois dernier sur le montant des indemnités qui leur sont dues. Explication à suivre dans ce journal. Au Proche-Orient, donc, les autorités de l'Émirat du Qatar ont confirmé samedi la suspension de leur médiation entre Israël et le Hamas palestinien. Après des mois d'efforts diplomatiques infructueux pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, car avec les États-Unis et l'Égypte, le Qatar avait mené une médiation menant à une première et unique trêve en novembre 2023. Elle avait duré une semaine et avait permis la libération d'otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens, mais depuis plus rien. L'Émirat du Golfe hébergeait aussi jusqu'ici le bureau de l'organisation palestinienne, responsable de l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, un bureau du Hamas qui n'a plus de raison d'être selon les Qatariens. Depuis plusieurs mois, les États-Unis se montraient insistants pour que Doha n'accueille plus le Hamas sur son sol. Écoutez l'analyse de Hasni Abidi, il est directeur du Centre d'études et de recherches sur le monde arabe et méditerranéen de Genève.
Les Américains ont demandé aux Qataris de fermer le bureau du Hamas parce que le bureau tire sa légitimité de des négociations, de la continuation des négociations. Les Américains sont sonnés, surtout l'administration Biden, puisqu'elle n'a pas réussi à finir son mandat, au moins avec un accord avec les Israéliens et avec le Hamas. Je pense que cette conclusion les a poussés à demander la fermeture du bureau, qui ne date pas d'hier, mais date de plusieurs mois, puisque pour les États-Unis, le bureau du Hamas ouvert à Doha n'a aucun sens puisqu'il ne sert à rien. Il ne faut pas oublier que le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par les Américains et plusieurs États européens.
Et c'était donc Hasni Abidi, le chercheur directeur du Centre d'études et de recherches sur le monde arabe et méditerranéen, interrogé par Pierre Olivier. En revanche, le porte-parole des affaires étrangères du Qatar, Majed Al Ansari, a rejeté les informations d'une source diplomatique laissant entendre que le Qatar pourrait fermer le bureau du Hamas à Doha. Une situation inchangée donc pour l'instant, malgré les pressions américaines. Toujours dans la région, au moins 33 personnes ont été tuées samedi dans des frappes israéliennes sur le sud et l'est du Liban, des fiefs du Hezbollah libanais, a indiqué le ministère de la Santé libanais. Et puis, un officier et un sous-officier saoudien ont été tués vendredi, on ne l'a appris que ce samedi, dans une attaque dans le centre du Yémen, menée par un assaillant affilié au ministère yéménite de la Défense, a rapporté samedi l'agence de presse officielle saoudienne SPA. Depuis son élection, Donald Trump multiplie les appels aux dirigeants étrangers. Le président américain élu a notamment discuté avec Volodymyr Zelensky. L'entourage du président ukrainien a même précisé que ce coup de fil s'était passé en présence d'Elon Musk. Il apparaît donc que le patron de Tesla, allié indéfectible de Donald Trump, devrait faire partie de la future administration républicaine, mais on ignore à quel poste. Avant le 20 janvier et les promesses de Donald Trump de mettre un terme au conflit entre Russie et Ukraine en 24 heures. Les États-Unis ont confirmé leur intention d'envoyer des employés de sociétés militaires américaines privées sur le sol ukrainien, loin du front, précise-t-on. L'administration démocrate en place cherche à dépenser l'enveloppe budgétaire votée en faveur de l'Ukraine. Et cette décision d'autoriser l'envoi de sous-traitants du Pentagone s'inscrit dans cet ultime effort pour prêter main forte à Kiev avant que la nouvelle équipe ne prenne possession des lieux et ne revoie à la baisse le montant de son aide. Romain Lemaresquier.
Il s'agira d'un nombre limité d'employés de sous-traitants du Pentagone et ils seront situés loin des lignes de front, ce qui signifie donc qu'ils ne seront pas engagés au combat, précise un responsable américain. La décision d'autoriser des sociétés militaires privées à partir en Ukraine a pour but de faciliter et d'accélérer la maintenance d'une partie du matériel américain fourni par les États-Unis, mais également par d'autres pays alliés à l'Ukraine. Il est notamment question de la maintenance des fameux F-16 qui ont commencé à être livrés au mois de juillet dernier, mais aussi des véhicules de combat de type Bradley, des systèmes de défense aérienne et d'autres matériels que les autorités américaines préfèrent ne pas divulguer. L'idée étant d'accélérer le processus de maintenance. Jusqu'à présent, lorsque ce type de matériel était très endommagé et même si les mécaniciens ukrainiens ont beaucoup progressé depuis le début du conflit, l'Ukraine devait l'envoyer à l'étranger pour être réparé, principalement en Pologne où l'armée américaine dispose de grandes ressources. Une perte de temps qui avait un impact direct sur le front pour l'armée ukrainienne. Petite précision, les employés américains qui travailleront prochainement en Ukraine ne le feront pas sous la responsabilité du Pentagone, mais sous celle de leur employeur.
Romain Lemaresquier. Quant à Josep Borrell, le chef de la diplomatie des 27, il était en visite à Kiev ce samedi. Visite visant à rassurer l'Ukraine du soutien européen indéfectible malgré la possible défaillance américaine. En Belgique, le volet civil du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles s'est achevé le 31 octobre dernier et depuis ce vendredi, on connaît le montant des dommages et intérêts accordés aux victimes, 18 millions d'euros. Problème cependant, ces victimes et parties civiles risquent de ne jamais toucher cet argent. Explication à Bruxelles de Laxmi Lothar.
Ce procès comptait un millier de parties civiles, des familles de personnes décédées, des personnes blessées psychologiquement et ou physiquement, mais aussi des policiers et des ambulanciers. Les dommages et intérêts les plus élevés ont été accordés à l'État belge avec un montant de 2,6 millions d'euros. Le réseau de transport en commun bruxellois, la STIB, a obtenu 1,5 million d'euros. Pour rappel, l'une des bombes avait explosé dans un métro le 22 mars 2016. Mais les parties civiles ne toucheront probablement jamais ces sommes, car les 8 condamnés au pénal sont insolvables. Cependant, l'arrêt de la cour d'assises reconnaît le préjudice subi et il est donc important pour les victimes. L'association V Europe rappelle que de nombreuses personnes ont dû subir un parcours du combattant pour pouvoir obtenir des indemnités et des aides via les compagnies d'assurance. Laxmilota, Bruxelles, RFI.
Et tout autre chose maintenant, l'une des séries d'animation les plus attendues de l'année dans le monde est mise en ligne ce samedi sur Netflix. Il s'agit des 3 premiers épisodes de la saison 2 d'Arcane, série animée adaptée du jeu vidéo League of Legends et qui est réalisée par un studio français. Une fiction rétro-futuriste qui est le fruit pour ces 2 saisons de 8 ans de travail et d'un total de 250 millions de dollars pour la production et la promotion, selon le magazine américain Variety, ce qui la hausse au rang de série d'animation la plus chère jamais réalisée. Anne Verdaguet.
T'avais raison, Kate.
Il y a d'abord eu League of Legends, l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde, dont les compétitions e-sport sont suivies par des millions de spectateurs chaque année. Puis en 2021 est venue la série animée adaptée du jeu Arcane, multi-récompensé avec 4 Emmy Awards. Le studio d'animation français Fortiche, lancé en 2009, avait abattu un travail colossal pendant près de 6 ans pour une série qui a mobilisé 700 collaborateurs en tout et qui a révolutionné l'animation avec des techniques mêlant 2D et 3D. Le tout étant fait à la main par chaque animateur qui produit moins d'une demi-seconde de film par jour pour 12 heures de contenu au final. L'univers, lui, est fidèle au jeu, mêlant fantasy, romance, action et horreur. Le tout est interdit aux moins de 16 ans. 3 ans après cette première saison, les 3 premiers épisodes de l'ultime saison 2 sont disponibles dès ce samedi sur Netflix avec la patte créatrice et le style artistique du studio Fortiche, dont le cofondateur dit qu'il aimerait renouveler la réussite de la saison 1, synonyme d'une incroyable expansion pour le studio qui bénéficie aujourd'hui d'une reconnaissance phénoménale aussi bien française qu'internationale.
Alors, arrête-moi.
Anne Verdaguer, merci. Minuit 10 à Paris, vous êtes sur RFI.